autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour. Ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs et auditrices, avec Hugo Violas à la réalisation, pour nous interroger sur nos rêves. À quoi et comment rêvons-nous au temps du Covid-19? Qu'est-ce qui transparaît en songe la nuit de ce que nous traversons en ces jours troublés, inédits de confinement, de déconfinement, où l'épidémie est dans tous les esprits et la distanciation sociale de rigueur? Qu'est-ce que nos rêves disent de nous et de ce que nous vivons collectivement et individuellement? Voilà qui intéresse nos invités, à commencer par la neurologue spécialiste de nos nuits agitées, la professeure Isabelle Arnulf, directrice de l'unité des pathologies du sommeil à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, qui est également auteure du fabuleux livre, il faut le dire, Une fenêtre sur les rêves. Nous sommes aussi en compagnie de l'historien des affects et de l'imaginaire Hervé Mazurel, initiateur, lui, de Rêves de confins, un dispositif de collecte de rêves. Ça l'intéresse, la collecte de rêves, tout comme l'anthropologue Anne-Catherine Lavocat, qui est également en direct par téléphone avec nous et qui vient, elle, de lancer le projet de recherche Rêver sous le Covid-19. C'est à votre tour, chers amis auditeurs et auditrices, à votre tour de rêver et de partager vos rêves sur RFI autour de la question à quoi et comment rêvons-nous au temps du Covid-19? Première réponse de Valentina, auditrice de RFI au Chili, recueillie par Anne Souhaitement.
Mon nom est Valentina.
Je m'appelle Valentina, j'ai 55 ans et je vis au Chili. Je me vois dans mon rêve au milieu d'une foule qui observe mais qui n'interagit pas. En fait, tout le monde est comme dans un état de contemplation. Je ne sais pas si on est en train de chercher des solutions à la crise, je ne sais pas vraiment ce qu'on fait, mais ça a retenu mon attention parce que ça fait 3 ou 4 fois que je fais le même rêve.
Comme 3 ou 4 fois que je sogno lo mismo.
Le rêve récurrent de Valentina, partagé sur les ondes de RFI. On avait envie de vous le passer entre les oreilles, Isabelle Arnulf. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous par téléphone depuis votre hôpital. Je rappelle que vous êtes donc neurologue, chercheuse à l'INSERM, professeure de médecine. Vous dirigez l'unité des pathologies du sommeil à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et vous êtes donc l'auteur de cet ouvrage formidable, Une fenêtre sur les rêves, aux éditions Odile Jacob. Car pour vous, Isabelle Arnulf, ce travail de collecte des rêves de vos patients n'a pas commencé avec le Covid-19. Et votre constat, vous avez d'ailleurs publié un article à ce sujet sur le site de The Conversation, Voyage au pays des rêves confinés. Votre constat, Isabelle, c'est tout de même qu'on rêve quoi? Un peu plus ou qu'on a tous plus rêvé en période de confinement?
Oui, Caroline, c'est pas mon constat, puisque moi je me suis occupée de pneumonie pendant 2 mois.
Et oui, vous avez été sur le front du Covid, hein, oui.
Et bien sûr. Mais par contre, il y a eu plus de recherches Internet sur le mot rêve. Et puis ma collègue Perrine Ruby, qui a fait l'interrogatoire direct sur Internet, a montré que la fréquence de rappel de rêve a beaucoup monté pendant ces 2 mois. Il ne nous surprend pas plus que ça, puisque, et ça je le sais aussi de mes patients, les personnes ont dormi un peu plus, sauf les grands insomniaques, mais c'est une exception. À partir du moment où les personnes étaient confinées, elles avaient la possibilité de dormir un peu plus tard le matin, en prenant moins les transports, vous voyez tout ce qui mange un petit peu sur notre sommeil. Et il faut savoir que le sommeil du matin est particulièrement riche en sommeil paradoxal, qui est la phase de sommeil dans laquelle nous rêvons le plus et avec ces rêves les plus étranges, les plus bizarres, les plus biscornus. Ça ne veut pas dire qu'on ne rêve pas en dehors de ces phases-là, on rêve aussi dans les phases non paradoxales. Mais généralement, quand on se réveille le matin avec un rêve très net en tête, c'est qu'on sort du sommeil paradoxal. Et si vous traînez un petit peu sur le matin comme ça, qu'au lieu de vous réveiller à 7h moins le quart, vous vous réveillez à 8h, vous avez de la chance de faire généralement une bonne demi-heure de sommeil paradoxal et de créer un très grand scénario que vous rappellerez mieux qu'auparavant.
Donc ça fait du bien de dormir plus et ça permet de rêver plus, joli tout de même. Autour de la question à quoi rêvons-nous au temps du Covid-19, bonjour Hervé Mazurel.
Bonjour.
Alors merci d'être également en direct par téléphone avec nous. Vous êtes historien des affects et de l'imaginaire, maître de conférences à l'université de Bourgogne. Vous aussi, ça fait longtemps que vous vous intéressez aux rêves. Vous avez d'ailleurs consacré un numéro spécial de votre revue, la revue Sensibilité, à la société des rêves. C'était avec le sociologue Bernard Lahire, lui aussi qui s'intéresse beaucoup aux rêves, un des premiers du côté des sciences sociales, pour croiser justement les regards et tous les scientifiques, tous les chercheurs chercheurs qui travaillent sur le rêve, vous avez aussi initié, à la croisée de plusieurs disciplines, des sciences humaines et de la psychanalyse, un laboratoire de psychanalyse nomade avec la psychanalyste Elisabeth Serin, et profiter, si j'ose dire, du confinement pour lancer un programme de recherche et de collecte de rêves, joliment intitulé « Rêves de confins ». Alors, quel est le regard de l'historien de l'imaginaire sur ces rêves de confins ou de confinés, Hervé Mazurel ?
En fait, c'est un bon moyen, en quelque sorte, de savoir comment l'événement que nous traversons, cet événement sans pareil, affecte, ébranle notre vie psychique et en même temps nous permet de voir ce qui fait collectif, en quelque sorte, dans notre vie psychique. Ce que ces rêves nous permettent de voir, ce sont les tensions que nous traversons et qui sont pour partie communes, les conflits intérieurs, que nous partageons, les anxiétés qui affleurent, bien sûr, les horizons d'attente aussi qui peuvent être partagés, les horizons d'attente qui sont ou craints, sous la forme de menaces, ou espérés, des envies de libération. Donc tout d'un coup, on a un instrument qui nous permet de pénétrer de mieux connaître les sensibilités de nos contemporains et leurs imaginaires, et notamment l'imaginaire collectif partagé. Évidemment, là-dessus, il y a des variations singulières, chaque individu ayant aussi sa singularité, son histoire personnelle, évidemment.
Oui, c'est ça qui est étonnant avec les rêves, on va y revenir au cours de cette émission, c'est que c'est à la fois propre à chacun, hein, c'est le monde intérieur de chacun, et en même temps, les angoisses collectives s'y retrouvent, ce qu'on vit en collectivité s'y retrouve autant que notre propre singularité ou individualité. Et voilà pourquoi ça intéresse aussi l'anthropologue que vous êtes, Anne-Catherine Lavocat, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être par téléphone en direct avec nous. Et vous avez donc décidé, vous aussi, en tant qu'anthropologue, vous êtes doctorante en anthropologie sociale à l'Université de Toulouse, d'initier un projet de collecte des rêves en ces temps de pandémie et de confinement. Mais vraiment sur le long terme, ça s'intitule « Rêver sous le Covid-19 », titre fortement inspiré par le travail de Charlotte Bérard. Alors elle, c'était entre 1933 et 1939, et ça s'intitulait « Rêver sous le Troisième Reich », c'est ça ?
Exactement. Exactement. Ouvrage que j'ai eu la chance, du coup, de découvrir et d'étudier quand j'étais encore étudiante. Et ce livre, du coup, qui n'avait pas été écrit sous une perspective particulièrement anthropologique à l'époque, mais par une citoyenne, comme vous le dites, alors opposante au régime hitlérien, permettait de montrer un petit peu l'impact du régime nazi, à la fois sur le sommeil, mais aussi sur le contenu des rêves. Et du coup, c'est la lecture de ce livre qui m'a profondément marquée, puisqu'il ouvrait justement, sans le vouloir, de nouvelles perspectives d'études, notamment en sciences sociales et humaines. C'est la raison pour laquelle, lorsque le début du confinement a été annoncé, je me suis dit qu'il pouvait s'avérer extrêmement intéressant et pertinent de s'intéresser aux rêves d'une population confinée.
Et de continuer à les suivre, c'est ça, parce que le propre de votre projet, c'est vraiment sur le long terme, de suivre et de voir les différences, au fond, finalement, ce que l'extérieur ou les crises extérieures totalement inédites provoquent chez nous à travers les rêves.
Exactement, et c'est là qu'on essaye de se placer dans une perspective anthropologique, puisque l'objectif, c'est de collecter les rêves pendant et surtout après le confinement, pour pouvoir les suivre sur la durée et voir si on peut faire émerger effectivement des archétypes à la fois collectifs mais aussi individuels.
Bon, il va falloir que vous reveniez pour nous faire partager justement ce que vous avez découvert ou pas autour de la question à quoi rêvons-nous au temps du Covid-19. Nous avons, nous aussi, sur notre page Facebook, celle d'autour de la question, reçu quelques rêves partagés par nos auditeurs. Je vous les soumettre et dites-moi ce que vous en pensez. Il n'est pas question de faire de l'interprétation des rêves, mais qu'est-ce que ça révèle ? Qu'est-ce que nos rêves disent de nous et de nous en période de crise ? Alors, il y a notamment N'Djamena au Tchad, Ousmane, qui nous dit que pendant cette épidémie, ce qui lui arrive, ce sont des images qui montrent que dans la ville où il est, ça va être mis en quarantaine. Et lui-même ne comprend pas. En fait, il pose une question. Est-ce que c'est de la peur ou est-ce que c'est autre chose ? Est-ce qu'on peut répondre quelque chose à Ousmane, N'Djamena, Isabelle Arnulf ?
Alors, ce qui est intéressant, d'une façon générale, c'est qu'on intègre dans nos rêves ce qui se passe dans nos journées. Et donc, on ne va pas être très surpris qu'un événement aussi majeur ne rentre pas à l'intérieur de nos nuits aussi. C'est un des travaux du sommeil et du rêve de reprendre les éléments de la journée et les réassocier à d'autres choses. On pense que ça procède au... ça participe au processus de mémorisation, mais aussi de digestion des émotions. Quand on veut le dire scientifiquement, c'est régulation émotionnelle. C'est une fonction qui est connue du sommeil, c'est-à-dire que si vous vous couchez de mauvaise humeur, triste, vous allez vous réveiller le lendemain matin de meilleure humeur, chez les sujets normaux, c'est le contraire chez les dépressifs. Et donc ça, c'est une fonction prouvée du sommeil, à savoir comment elle s'applique dans les rêves et pourquoi nos rêves sont au contraire très riches en émotions, ça fait l'objet d'hypothèses. Et l'une de ces hypothèses, que moi je trouve très jolie, c'est l'idée de la simulation de la menace. Elle a été élaborée par Revonsuo en Finlande dans les années 2000. Et il fait l'hypothèse qu'il est important la nuit que nous entraînions à simuler des choses qui pourraient nous arriver dans la journée et qui seraient graves, d'être attaqué, d'être exclu, de pas arriver à faire notre métier, tout ce genre de choses. Et il soutient son hypothèse en disant, effectivement, une chose qu'on sait, c'est que 2/3 des rêves sont négatifs, un peu plus de 2/3.
On rêve surtout du négatif, plus que du positif.
Voilà, les éléments positifs, le beau rêve, comme un peu on dit le rêve, on pense, est en fait beaucoup moins fréquent que des mises en difficulté de la personne dans sa vie quotidienne. Et ça a été mesuré justement avec des banques de rêves, et ça a été retrouvé systématiquement. C'est vraiment quelque chose qui est très régulier.
Donc on se préparait à la menace, ou aux difficultés qu'on aurait à affronter dans la journée.
Voilà, son idée, c'est que si c'est resté avec l'évolution, peut-être que ça a une utilité darwinienne, que ceux qui ont ce type de rêve ont mieux défendu leurs petits. Je pense par exemple aux jeunes mères qui ont le rêve récurrent, ça a été montré par Nielsen, que leur bébé est en danger. C'est pas forcément des mères angoissées, c'est vraiment universel. L'étude qu'on avait fait nous chez les étudiants en médecine qui, la veille de l'examen, rêvent tous qu'ils échouent de toutes les manières possibles. Et on a montré de façon très jolie, quand on a eu les résultats 2 mois après, que plus ils échouaient en rêve, plus ils réussissaient dans la réalité. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si on fait des rêves négatifs. Ils ont sans doute un rôle eux-mêmes de préparation de la menace, de digestion des émotions. En tout cas, la fonction psychique des rêves est passionnante.
Passionnant, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous en soumets un autre, peut-être pour vous, Hervé Mazurel. Alors là, c'est un de nos auditeurs qui nous écrit depuis Montréal. Il s'appelle Hicham et il dit qu'il rêvait qu'il fallait absolument prendre un bateau pour la Nouvelle-Zélande, sauf qu'avant, il devait récupérer ses 2 enfants qui n'arrivaient pas à récupérer et que finalement, c'était un espèce de rêve un peu post-apocalyptique, dit-il, genre Mad Max, où on est survivant. Il faut se débrouiller pour survivre avec une constante menace qui pouvait arriver de n'importe où, de n'importe quand. J'ai envie de faire réagir là-dessus. Peut-être Hervé Mazurel, est-ce que là c'est un rêve de fuite, un rêve de menace? Qu'est-ce que vous en pensez?
Il y a un peu de tout dans ce rêve. On a pu constater au début de notre collecte qu'il y avait évidemment beaucoup de rêves de chaos, de rêves de pénurie, de rêves de panique collective, une dimension assez catastrophique, très prégnante. Et puis à l'intérieur de tout ça, bien sûr, l'espoir de se libérer, de s'évader, d'une échappée belle. Et donc on a aussi rencontré beaucoup de ces rêves de bateaux, de trains, d'avions aussi. Hein. Les rêveurs fréquentent beaucoup les gares, les aéroports, etc. Il y a des envies d'ailleurs, de lointains évidemment. Et pourquoi pas arriver à s'échapper sur des îles perdues qui seraient restées vierges du coronavirus. Il y a vraiment cette dimension un peu utopique. Après, ce qu'on croise beaucoup aussi, c'est ce désir de liberté sans arrêt entravé. Ces derniers jours, on a vu, avant le déconfinement, des gens qui rêvent de barrières qu'ils n'arrivent pas à sauter, qui rêvent de grillages, qui rêvent, je sais plus, c'était très, très étonnant, hein, quelqu'un qui rêvait d'une barrière, qu'elle sautait sans arrêt autour de la barrière, au-dessus de la barrière, elle n'y arrivait pas, elle retombait au sol, alors même que... En reculant, elle s'est aperçue qu'elle pouvait passer sur le côté. Et donc voilà, ça dit bien la force des interdits, ce désir de liberté, cet univers très chaotique alentour et qui empêche aussi des décisions. On est dans un tel océan d'incertitude qu'on ne peut plus fonder décisions en raison, en quelque sorte, avec une certaine sérénité. Et puis on doit attraper les enfants, les proches, les emmener avec soi. Enfin, tout devient extrêmement complexe. Il y a eu beaucoup de rêves de train aussi, de rêves de train qui n'arrivent pas, dont la destination est changée au dernier moment. Il y a un très beau rêve qu'on a recueilli d'un monsieur justement qui est dans un train train, et le train ne s'arrête à aucune gare. Et à chaque gare, il voit un de ses enfants avec ses valises, il ne peut pas s'arrêter pour dire adieu, pour l'emmener avec soi. Hein, il essaye d'ouvrir les fenêtres, il n'y arrive pas, et il est emmené à la gare suivante, et, voilà, et ainsi de suite. Hein, c'est assez, assez récurrent, ce type de rêve de voyage.
Et vous avez constaté aussi, Hervé Mazurel, que ça a un peu évolué, les rêves, au fur et à mesure, alors de la menace pandémique, et en France, des dates de confinement
Oui, on a le sentiment qu'en effet, il y a des transformations. Je vous le disais au début, voilà, des rêves de contamination restent très prégnants, mais des rêves de pénurie, d'hospitalisation, de pénurie de masques, de médicaments, au début très prégnants. Et puis petit à petit, notamment pour les citadins, une mutation aussi autour de la maison, de la transformation de l'habitat, des gens qui d'un coup rêvent de transformer leur terrasse en cabane ou de transformer leur toit en lieu de dormir à la belle étoile. Enfin, une espèce de rêve de reconstruction de l'habitat, une fois qu'on en a exploré tous les recoins, tous les sens giratoires ou interdits, là, on s'imagine renouveler son chez-soi. Hein, et ça, c'est devenu de plus en plus prégnant. Il y a eu aussi des rêves très importants, hein, ceux des papiers, hein, l'angoisse d'avoir à montrer les fameuses attestations. Hein, et à mon avis, il y a évidemment tout un... une mémoire de l'occupation, hein, même si ça passe par les fils, mais voilà, l'angoisse de devoir
d'être arrêté, de
devoir montrer le papier, voilà, cette espèce d'intrusion dans l'intime où tout d'un coup il faut justifier son désir de sortir, même jusqu'à justifier le désir de sortir ses enfants ou d'aller faire des courses de première nécessité. Il y a quelque chose de très de très effractif, de très intrusif, et il y a toute une mémoire historique ici qui est à l'œuvre, à mon avis, dans ces rêves.
Anne-Catherine Lavocat, est-ce que vous voulez réagir là-dessus? Vous avez eu le temps, vous, de commencer à analyser un peu ces rêves? Vous aussi, vous feriez un parallèle? Enfin, des rêves en période de crise, en période de confinement, sont particuliers?
Oui, alors tout à fait. Pour l'instant, on en est effectivement toujours à la phase préliminaire de la recherche, hein, puisqu'on continue actuellement de les collecter. Mais effectivement, dès les premières semaines, on a vu quelques archétypes émerger et qui rejoignent totalement les observations de M. Mazurel ou de Mme Arinulf. Au niveau, par exemple, des rêves on a eu beaucoup de rêves de confusion, de désorientation, ça dans les premières semaines, et qui, au fil du temps, ont commencé à se transformer, justement. Mais effectivement, dès le départ, on a beaucoup de gens qui rêvaient qu'ils ne reconnaissaient plus, par exemple, leur propre maison, leurs proches ou leur ville, qui se sentaient étrangers à tout, ou alors qui se retrouvaient dans des villes étrangères. Et ce qui, effectivement, est complètement logique et normal, je pense, puisqu'on se retrouve dans un moment, une période charnière, où tout est extrêmement confus et on est dans une perte de repère totale. Donc c'est normal, à mon sens, que cette confusion aille se retranscrire dans nos rêves.
Oui, confusion, incertitude, crise inédite. Est-ce que c'est très différent des rêves habituels de vos patients, Isabelle Arnulf, même si je sais que vos patients viennent vous voir parce qu'ils ont des soucis de sommeil ou de rêve, mais est-ce que c'est très différent? Est-ce qu'en période de crise, justement, ça s'habite autrement, même notre intimité, nos rêves, nos nuits, nos songes?
Alors, c'est évidemment compliqué de répondre parce que...
Bien sûr.
Et ça veut dire que vous avez commencé la banque de rêves avant de savoir qu'il y aura le Covid et le confinement et que vous allez comparer. Les thématiques peuvent changer, mais le côté d'avoir toujours ces deux tiers de choses négatives, on le voit en dehors de toute période de confinement. Ce qu'il y a d'intéressant dans l'événement collectif, c'est que ça avait été montré, par exemple, pour l'écroulement des tours le 11 septembre ou lors du Fukushima, du grand tsunami, c'est que ces images qui ont été passées en boucle à la télé au même moment chez tout le monde sont entrées exactement au même moment dans les rêves de la population, avec la petite transformation classique que peut faire le rêve, comme par exemple des tsunamis qui deviennent des tsunamis de sable. Et au lieu d'être aidé au haut-parleur, je me rappelle d'une patiente somnambule, et les haut-parleurs disaient « allez en hauteur », et elle a grimpé sur une étagère au lieu de puisqu'elle était dans sa chambre. Et donc, on a eu, après le Bataclan, énormément de cauchemars, bien sûr. Et je me rappelle d'une banquière qui était attaquée par des djihadistes dans sa banque. Enfin, on voit tout à fait ce mélange du quotidien, hein, qui est très coloré en ce moment de menaces, et de cette fonction le collectif, mise en difficulté du rêve. Quoi,
on intègre finalement vraiment nos rêves, on croit que c'est notre partie la plus intime, enfin c'est notre partie la plus intime et personnelle, mais en même temps, il y a des dimensions collectives et on intègre ce qu'on voit, ce qu'on vit, les films, la télé, les infos, et ce qui nous... Oui, on fait pas tous les mêmes rêves, mais il y a les mêmes choses dans nos rêves, quand même. On peut dire ça comme ça ?
Oui, c'est bien dit. Je pense à une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que, par exemple, les Indiens d'Amérique ont les mêmes rêves que nous, ouais, ou que les Suisses ? Et si vous voulez, si on compte, parce que si on compte et on mesure, hein, on est bien en train de parler, de prendre des récits, de compter le nombre de mots, de voir combien de fois il y a de menaces, il y a autant de menaces dans les deux, chez les Suisses, que chez les Indiens Navarro. Mais chez les Indiens Navarro, ça va être massivement des menaces physiques, alors que chez les Suisses, ça va être des menaces d'exclusion, de personnes. Donc il y a des invariants sur les menaces, et puis une coloration locale propre au milieu dans lequel on vit.
Autour de la question des rêves, au temps du Covid-19, on vous fera revenir, vous aussi, hein, Hervé Mazurel, sur cette mémoire, ce côté collectif, hein, de nos rêves, qui est quand même assez fort et que vous étudiez, mais vous n'êtes pas que historien du sensible et de nos affects et de notre imaginaire, vous êtes aussi musicien, guitariste du groupe Jack the Ripper et puis des Fitzcarraldo Sessions et aujourd'hui du groupe Valparaiso. On écoute tout de suite, juste pour le plaisir, un titre onirique évidemment, extrait du dernier album de Valparaiso qui s'intitule Broken Homeland. C'est Rising Tide sur RFI avec, excusez du peu, Fab Kilder et How Help. Et puis bien sûr, Hervé Mazurel à la guitare sur RFI.
Waking up, on the sand, somebody touching my hand, before I open my eyes, in another disguise.
He calls upon the Lord of Roses,
and she wishing upon the one who wants to be.
He is crawling the earth so.
She can't even remember her own name.
He is reaching beyond the lawless land,
beyond the laws of nature, beyond the laws of man. You feed me these lines, and then what am I to do? You sing me like you know me, and I just receive them like I trust you.
I'll feed a bit to the birds, I'll feed some more to the moon.
Yeah, and in the morning when I take the plunge into the deep blue, before my last breath, in way over my head, I'll feed the rest to the dark, dark depth.
Morceau onirique, morceau musique de rêve qui illustre aussi toutes nos interrogations du moment. Extrait du dernier album de Valparaiso, c'est votre groupe, Hervé Mazurel. Vous êtes aussi historien, hein, c'est pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui autour de la question des rêves, mais vous êtes guitariste. C'est un morceau d'inspiration très onirique, hein, qui nous entraîne déjà dans des songes.
Et qui est le produit vraiment d'un rêve, puisque Howe Gelb, donc, qui est un chanteur assez célèbre aux États-Unis, qui a trentaine d'albums derrière lui et arrivé de Tucson en Angleterre où nous enregistrions, et il était en plein décalage horaire et il a demandé s'il pouvait se coucher une petite heure avant de commencer. Il était arrivé sans parole et c'est à son réveil qu'il a écrit ce texte.
Magnifique.
Et donc c'est vraiment le produit d'une rêverie immédiate en quelque sorte. Et voilà, et puis ils sont rentrés en studio tous les deux, ils se sont rencontrés pour la première fois ce jour-là et voilà, ça a donné ça.
Comme quoi l'inspiration peut sortir et sort souvent de nos nuits et de nos rêves. Autour de la question à quoi rêvons-nous au temps du Covid-19, on continue donc de s'interroger en votre compagnie. Hervé Mazurel, historien des affects et de l'imaginaire, initiateur du programme de collecte Rêve des confins, en compagnie aussi de l'anthropologue Anne-Catherine Lavocat, initiatrice elle du projet de recherche Rêver sous le Covid-19, et en compagnie de la professeure Isabelle Arnulf, neurologue, spécialiste des rêves et directrice de la consultation de pathologie du sommeil à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, avec tout de suite une nouvelle question pour vous, soulevée par l'écologue Jacques Tassin, qui était récemment notre invité.
Alors j'aimerais savoir, de votre point de vue, s'il est toujours incontournable d'avoir, lorsqu'on rêve de quelque chose, vécu un indice de ce quelque chose au cours de la journée qui précède ce rêve.
Votre réponse, Isabelle Arnulf.
La veille et l'avant-veille, 86% de représentation dans les rêves.
Ouais.
Mais il y a ce 14% de choses qui sont plus anciennes. Et puis, il y a du jamais vécu dans les rêves. C'est ça qui en fait quand même la beauté. Est-ce que vous avez déjà volé en réalité? Jamais. Et
non,
vous
mais
êtes
en rêve,
quand même
oui.
Capable de le faire en rêve. Alors, est-ce que c'est de la nage qui est transformée? Est-ce que c'est parce que le papa a fait l'avion? Vous voyez, il reste, et c'est pour ça que ça nous passionne tous, il reste une dimension qui ne ressemble pas à la réalité dans nos rêves.
C'est ça, c'est pas,
c'est la beauté.
Et voilà, c'est pas le reflet de la réalité transparaît, arrive dans nos rêves, la réalité individuelle et collective, mais c'est pas que ça, c'est évidemment encore autre chose avec plein d'éléments.
Elle est modifiée. Moi, j'emploie souvent le terme du patchwork comme un tissage de choses anciennes, de choses récentes, de préoccupations. Et ce tissage, je comprends que les hommes essayent de l'interpréter depuis la nuit des temps avec toutes les théories du moment. Il reste totalement incompréhensible. On arrive à donner des chiffres sur la représentation d'éléments de la veille ou de l'avant-veille qui sont souvent des choses très anodines. C'est pas parce que vous voulez faire une rencontre amoureuse le jour même que vous allez rêver de votre conjoint la nuit même. La règle qui incorpore dans les rêves certains éléments n'est pas connue, mais ne semble pas. Les éléments, évidemment, plus associés à des choses très négatives sont plus insérés que positives, mais les choses importantes pour nous ne sont pas forcément insérées. Donc c'est très curieux, quoi. On ne connaît pas encore l'algorithme, si on peut parler.
C'est ça qui nous fait rêver.
C'est ça qui est chouette. Il faut savoir quand même aussi qu'on n'accède qu'à une toute petite partie de l'iceberg. Hein. On a généralement dans les collectes de rêves, les rêves marquants que les personnes ont racontés, du coup mémorisés ou écrits parce que ça les change de d'habitude, et le dernier rêve du matin. Si vraiment vous réveillez systématiquement les personnes la nuit très régulièrement, vous recueillez beaucoup plus de rêves, et souvent des rêves qui sont moins marquant, qu'on a moins envie, je sais pas, vous habiller, vous manger.
Ah oui,
moi qui filme tout le temps les gens en train de dormir et de vivre leurs rêves, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses ordinaires. Il y a des gens qui applaudissent, il y a des gens qui mangent, il y a des gens qui fument. Enfin, on fait aussi de l'ordinaire, mais le problème du récit, de travailler sur le récit, c'est qu'on travaille au passé avec une chose qui est passionnante, qui est détaillée, mais qui est biaisée par le fait qu'on s'en est rappelé. C'était soit le dernier rêve, soit le rêve le plus marquant.
Hervé Mazurel, j'aimerais faire réagir là-dessus aussi, puisque vous êtes un historien de l'imaginaire. Au fond, c'est tout notre imaginaire, mais ce n'est pas toujours le plus intéressant qui revient. Et on rêve beaucoup plus que ce dont on se rappelle.
Oui, c'est pas toujours le plus intéressant. Je crois qu'il y a une chose qui est très importante. Vous en parliez tout à l'heure, Isabelle Arnulf, c'est que longtemps, je vais partir loin dans le temps, au Moyen Âge, au moment des clés des songes, on a longtemps pensé que les rêves étaient des sortes de présages de l'avenir, des présages de l'histoire, de ce qui allait advenir, nous renseigner sur le futur. Et les rêveurs devaient du coup ne devaient pas garder leurs rêves pour eux, puisqu'ils intéressaient la collectivité tout entière. Donc il fallait les exprimer. Et puis le 19e siècle est arrivé là-dessus. Et Freud en particulier, qui au contraire a considéré que le rêve ne nous renseignait pas tant sur le futur que sur le passé des rêveurs, qu'il cachait soit des souvenirs traumatiques, soit des choses de la prime enfance, mais que ce que renseignait avant tout le rêve, c'était le passé du rêve. Et alors je crois précisément qu'il faut sortir un peu de cette vision freudienne qui a enfermé le rêve dans une définition qui, voilà, qui est bien connue, qui c'est voilà, le rêve, c'est d'abord la réalisation d'un désir refoulé. Hein, et, mais le rêve, c'est plein d'autres choses aussi. C'est les besoins du quotidien, c'est la menace qui vient. C'est un jeu, vous en parliez tout à l'heure, c'est un jeu avec les futurs possibles, un jeu presque ludique. Hein, on construit des futurs, on les expérimente, on écrit des scénarios. Donc voilà, le rêve ne nous renseigne pas seulement sur un passé, mais sur un présent très quotidien. Et en ce moment, notre présent, il est étal. Hein, on est dans une immédiateté, enfin dans un présent totalement omniprésent, tel qu'elle le dit, mm-hmm. avec une opacité du futur. Hein, mais le rêve essaye aussi d'aller voir vers l'avant. Donc je crois qu'il faut en effet ne pas circonscrire la définition du rêve à un rapport exclusif au passé, hein, mais bien aussi à une exploration des futurs.
Des futurs possibles.
Des horizons d'attente.
L'ethno-psychiatre, l'ethno-psychologue Toby Nathan disait ici même que le rêve, pour lui, c'était le brouillon du lendemain. Phrase que je trouve ouais. magnifique. J'ai envie de vous citer aussi un autre rêve que nous a... écrit à nos auditeurs internautes hein, sur notre page Facebook, c'est Aristote à Kinshasa. Il nous explique que ça fait plus de 10 ans qu'il a quitté son village en RDC pour vivre à Kinshasa, qu'il cherchait il pensait partir au Canada pour suivre ses études, et puis le Covid-19 l'a surpris, tout est tombé, je suis obligée de revoir mes objectifs, même ma vie a changé, donc il fait que des nuits blanches et il rêve qu'il est rentré au village. Je vous ai déjà cité ce rêve, hein, je crois, mais ça me frappe parce qu'en fait, je me dis, mais finalement, là, c'est une tentative de voir si vraiment plus rien ne marchait, c'est une tentative de prévoir autre chose ou de ne pas penser que parce qu'on l'a rêvé, c'est ça qui va se produire.
C'est difficile de vous répondre, et d'autant plus que ça contrevient un tout petit peu à ce que j'essaye de
oui,
faire.
Oui, on ne veut pas interpréter, hein, je suis bien d'accord.
La difficulté, c'est que voilà, j'ai peur de faire de l'ethnocentrisme, ce qu'on appelle aussi en histoire de l'anachronisme, c'est-à-dire d'interpréter les rêves à distance de gens. Moi, ce qu'on essaye justement de faire, c'est de considérer les rêveurs aussi dans leur histoire personnelle, bien sûr, leur histoire familiale, mais aussi dans leurs appartenances culturelles, ethnographiques, sociologiques, et donc sans un savoir très important autour de ça, de toutes les appartenances sociales et culturelles de cette personne-là, il me semble très difficile d'interpréter ce qui est dit là. Ce que je perçois juste, c'est que juste ce que vous disiez à la fin sur son désir de rentrer au village, ça fait partie des évasions possibles. Hein. Quand le futur est opaque, il reste la nostalgie de l'autrefois. Et qu'est-ce qu'il y a de plus sécurisant que le village de son enfance, dans lequel, enfin, pas toujours d'ailleurs, mais
pas toujours,
parfois,
parce que là, hein, son message, il n'a pas envie hein, de retourner au village. Je pense qu'il a plutôt envie de partir ailleurs. Hein. Mais en fait, il s'agit pas voilà, d'interpréter, mais il s'agit plutôt de se dire, finalement, on fait souvent des rêves négatifs, ce que vous nous disiez, Isabelle Arnulf. Oui. Et Isabelle Arnulf, j'aimerais bien faire la différence entre rêve négatif et cauchemar. C'est pas pareil, quand même.
Oui, puis il faut faire attention, parce qu'il y a eu tellement d'interprétations des rêves bien que sûr. Les gens vous apportent leur rêve en disant « Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je retourne dans mon village ?» Non, surtout, dites bien qu'on ne sait pas comment les interpréter.
Voilà, c'est ça.
Hein. Et que ça n'est pas un message de sa conscience lui demandant cela. Alors, oui, on distingue les mauvais rêves qui sont des rêves accompagnés de sentiments négatifs, peur, colère, dégoût, qui peuvent même nous imprégner au point de nous rendre difficile une matinée après un rêve négatif, mm-hmm. du cauchemar qui contient les mêmes affects négatifs, mais qui réveille la personne. C'est une définition qu'on donne pour être tous d'accord sur deux dont on parle.
Ah, le cauchemar réveille, il est tellement fort, puissant, gênant, qu'il réveille.
Voilà, et quand on compare les cauchemars aux mauvais rêves, il y a les mêmes émotions négatives, d'agressivité, de colère, mais l'intensité est plus élevée, ce qui suggère que quand quelque chose est trop intense émotionnellement, ça finit par réveiller le dormeur. Et on théorise ce fait, heureusement qu'on ne se réveille pas à chaque fois qu'on a un mauvais rêve, sinon on se réveillerait sans arrêt la nuit, par le fait que la plupart du temps, le rêve fait son boulot de digérer ses émotions négatives, de les associer à d'autres choses qui n'ont rien à voir et qui permettent de faire passer un petit peu le mauvais morceau, et du cauchemar qui interrompt ce processus de digestion émotionnelle comme une mauvaise digestion. Et que de temps en temps, on a un cauchemar parce que voilà, c'était un peu gros à digérer. rencontrer, mais que ça veut dire que l'immense majorité des émotions négatives a été correctement dégradée pendant le sommeil. Et là où on s'inquiète, évidemment, c'est quand les gens ont sans arrêt des cauchemars. Et là, on se dit, il y a un processus normal du sommeil qui ne fait plus son job, qui ne fait plus son boulot. Et là, il faut aider les personnes à retourner dans le sommeil.
Et oui, pour que justement le sommeil et les rêves fassent leur boulot, comme vous dites, un boulot de digestion. On continue d'explorer nos rêves et vos rêves, hein, au temps du Covid-19, chers amis auditeurs et auditrices de RFI, grâce aussi à la collecte de rêves d'auditeurs réalisée sur nos ondes par Anne Souhaitemont. Nouveau petit extrait qui nous emmène cette fois-ci de Kinshasa en RDC jusqu'à Naplouse en Cisjordanie-Palestine.
Je m'appelle Passi Moubirampi, j'habite à Kinshasa, j'ai 46 ans. Dans ma révélation, j'ai vite compris que le coronavirus, c'est un esprit. L'hôpital était fermé avec un gros cadenas. De là, nous nous sommes retrouvés devant une grande rivière. Toute la rivière était inondée de cadavres qui saignaient. Les cadavres pleuraient, se lamentaient, criaient, suppliaient. J'ai élevé mes yeux de loin, j'ai vu trois géants. L'un tenait dans ses mains un marteau et les deux autres des machettes tranchantes. Lorsque ces hommes sont arrivés devant moi, leur apparence était des hommes méchants. Mais dès qu'ils m'ont vu, ils m'ont donné du sourire. Ils m'ont laissé et ils sont partis. Derrière eux, il n'y avait plus de cadavres dans la rivière. C'était le calme total.
Bonjour, je m'appelle Wajdi Khaled, j'ai 19 ans et je suis de Naplouse, en Palestine. J'ai fait ce rêve un peu étrange où je suis dans la rue et puis je grimpe sur un bout de tissu qui en fait est un tapis volant, presque comme celui d'Aladin. Sauf que le mien vole tellement vite que j'arrive en Allemagne dans une boîte de nuit. Et là, je retrouve tous mes amis et tous les gens que j'avais rencontrés lors d'un précédent voyage en Allemagne. Je commence alors à leur dire adieu, un par un, mais je ne sais vraiment pas pourquoi. Et finalement, je ressaute sur mon tapis volant et je m'en vais. Et là, je me suis réveillé. Voilà, c'est le rêve que je voulais partager avec vous.
Qui veut réagir, non pas interpréter ses rêves, mais réagir à ses rêves qui effectivement sont à la fois très singuliers, liés à une culture quelque part et en même temps qui nous sont tellement familiers parce que finalement dans nos rêves on retrouve, comme vous le disiez un peu Isabelle Arnulf, de manière différente, mais les mêmes angoisses ou le même imaginaire notre humanité hein, un peu dans nos rêves, un peu beaucoup même.
Moi, j'aime bien le concept du tapis volant. Je trouve qu'on retrouve un petit peu cette idée orientale assez ancienne que pendant le sommeil, notre corps reste là et que notre âme sort du corps et voyage et que c'est ces images du voyage au bout du monde qu'elle ramène aux dormeurs. Et les fellahs d'Égypte s'entouraient la tête dans des draps pour empêcher que leur âme ne s'envole trop loin. Et donc, cette idée de flotter, juste pour vous dire, pour revenir, parce que moi je fais des sciences, hein,
bien sûr.
Pas de la technologie, je connais rien, mais il faut savoir que quand on dort, et en particulier quand on est en sommeil paradoxal, non seulement notre corps ne bouge pas, mais les informations qui arrivent de l'extérieur sont en grande partie coupées, comme si on était sourd, muet et aveugle, pas trop pour qu'on puisse quand même se réveiller sous un coup de tonnerre, mais cette diminution des informations qui arrivent à notre corps peut produire des sensations de corps extrêmement légers qui s'envolent, qui on appelle ça des illusions vestibulaires, vous voyez, qui flottent légèrement au-dessus du lit, voire sortir de son corps, comme on le voit de temps en temps dans certaines
situations
paradoxales. Donc le fait qu'on sente un tout petit peu les choses, mais beaucoup moins, peut donner une certaine un corps qui est plus léger, si vous voulez.
Et qui est capable de voler et de s'envoler sur un tapis volant.
Peut-être que c'est pour ça qu'on vole en rêve, je ne sais pas.
Autour de la question de nos rêves, hein, on ne sait pas, mais on partage à la fois donc, des rêves à la fois communs et si singuliers. On propose tout de suite un rêve parisien maintenant, à la fois poétique et musical. Quand François Atlas, oui, de François M. The Atlas Mountain et Barbara Carlotti revisitent Charles Baudelaire, rêve parisien sur RFI.
Et des cataractes pesantes comme des rideaux de cristal se suspendait éblouissante à des murailles de métal, non d'arbres mais de colonnades. Les étangs dormants s'entouraient, ou de gigantesques naïades, comme des femmes se miraient. Des nappes d'eau s'épanchaient bleues, entre des quais roses et verts, pendant des millions de lieues, vers les confins de l'univers. C'était des pierres inouïes et des flots magiques, c'était d'immenses glaces éblouies par tout ce qu'elles reflétaient.
De rêve parisien du poète Baudelaire, mise en musique et interprétée par François Atlas et Barbara Carlotti sur RFI autour de la question à quoi rêvons-nous en ces temps de pandémie, mais pas seulement. On va en venir maintenant à vos recherches, à chacun. Hervé Mazurel, qu'attendez-vous de ces rêves de confins, de ce laboratoire dans lequel vous, vous collectez les rêves? Vous avez aussi, je crois, un livre en préparation. Qu'attendez-vous de cette collecte de rêves?
Alors, on ne sait pas encore tout à fait ce qu'on va en faire. On s'est juste dit qu'il fallait pas manquer l'occasion de créer ce corpus, parce que ensuite ce serait trop tard. Et ici, j'avais en effet l'exemple de Charlotte Bérat aussi, moi, qui est un livre qui m'a beaucoup marqué. Je dis bon, il faut absolument s'emparer de cette question tant qu'on peut le faire. Si probablement une publication d'une espèce d'échantillon de rêve sous anonymat, après en avoir discuté avec les rêveurs, mais c'est aussi une matière qu'on a voulu créer pour rouvrir l'espace de dialogue entre les sciences sociales, histoire, sociologie, anthropologie en tête, avec la psychanalyse, à un moment où ce dialogue est interrompu, où il est riche de très nombreux malentendus. On voudrait l'ouvrir aussi aux neuroscientifiques, j'ai un peu travaillé aussi avec des neuroscientifiques, bref, essayer de sortir des carcans disciplinaires qui nous aveuglent et permettre justement autour de ce matériau onirique de rencontrer nos approches diverses et variées, de les faire s'enrichir en quelque sorte, et sortir notamment du divorce entre le psychologique et le sociologique. Ça, c'est vraiment la clé pour nous, c'est-à-dire de montrer qu'on pense toujours la société et l'individu comme des univers séparés. En fait, la société, elle n'est pas à l'extérieur de nous, en dehors de nous, elle l'est certes, mais elle est aussi en nous et même très à l'intérieur de nous. Et donc le livre que j'ai préparé s'appelle L'inconscient ou l'oubli de l'histoire, c'est pour montrer cela, que l'histoire, on l'écrit toujours avec un grand H, on la pense en dehors de l'individu, autour de lui, mais nous en lui, et non pas tout au fond de nous. Or, nos psychismes sont tout imprimés d'histoire, sont pétris, façonnés aussi par l'histoire. L'histoire s'invite jusque dans les tréfonds de nos rêves et de nos psychismes. On dit toujours, nos rêves, c'est ce qu'il y a de plus individuel dans l'individu, ce qu'il y a de plus subjectif, de plus intime. Bien sûr, il y a de cela. Mais il y a aussi, on vient de montrer, de l'histoire collective, des mythes collectifs, des fantasmes partagés, des imaginaires, des sensibilités communes qui s'y expriment et qui, du coup, font du rêve un objet d'histoire. Et c'est le livre que je prépare sur l'inconscient n'est pas seulement centré sur le rêve, mais c'est aussi un des chapitres. J'y consacre un chapitre entier. Voilà.
C'est intéressant et ça rejoint tout à fait, Isabelle Arnulf, ce que vous disiez sur le côté patchwork. C'est qu'en fait, le rêve, c'est pour ça que c'est très compliqué de l'interpréter, parce qu'il est plein de choses à la fois, il mêle plein d'éléments de l'individuel, du collectif, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on va vivre, de nos peurs. Enfin, oui, le mot patchwork va bien pour les rêves, en fait.
Oui, le bon côté d'un événement collectif, c'est qu'il ancre tout le monde, il est apparu à tout le monde au moins une fois, comme les grands tours ou la menace. Et donc, ça permet justement de rechercher comment il va s'intégrer dans les différents... chez les rêves des différentes personnes. Voilà. Alors après, pour mes propres sujets de recherche...
Et oui, parce que vous continuez. Maintenant que vous avez, après avoir été au front du Covid et des pneumonies, vous retrouvez, j'ai envie de dire, vos patients habituels sur la pathologie du sommeil. Et...
absolument. Et donc, mes patients m'aident beaucoup. Bon, je les soigne pour leur pathologie, bien sûr, mais ils m'aident beaucoup à avancer. Et en particulier sur cette problématique des émotions dans le sommeil, on a finalement le matin au réveil qu'une toute petite partie de ce qui s'est passé pendant le sommeil au niveau des émotions. Et donc, comment accéder au rêve en direct au moment où il se passe et pas par son récit le lendemain matin?
Oui, c'est pas
et
pareil.
Pour ça, je bénéficie de maladies ou de modèles. La première, c'est les patients qui ne sont plus paralysés dans la phase de sommeil paradoxal et qui, du coup, avec leur corps, leur visage, leurs paroles, vont exprimer ce qu'ils sont en train de vivre. Ils vont souvent cogner, crier, parler, mais aussi avoir un visage qui s'anime de mille émotions, sourire. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur les sourires dans le sommeil, qui, vous savez, existent chez les bébés. On pensait que ça disparaissait chez l'adulte, mais en fait, on en trouve. Et compter, vous savez, le problème des sciences, c'est qu'on ne peut pas juste imaginer. On est obligé de compter et classer et de se prévenir contre toutes sortes de biais d'erreurs. Et
parmi, bien sûr, oui, c'est une vraie recherche scientifique, bien sûr.
C'est un peu la limite. C'est là où parfois on a du mal. On adore ce que font nos collègues anthropologues et tout. Mais c'est vrai que nous, on a une espèce de... ça peut paraître osseux, moins joli et tout, mais il y a un moment où il faut compter et classer. Sinon,
il y a une rigueur.
On dit ce qu'on a envie de trouver et pas ce qu'on trouve en réalité. Et donc, une des choses qu'on a trouvées et qui nous passionne, c'est que les émotions exprimées sur le visage d'un dormeur sur lequel cette petite fenêtre est ouverte grâce à cette pathologie, nous permettent de voir que les gens passent du rire aux larmes extrêmement rapidement, beaucoup plus rapidement que dans la journée. Dans la journée, quand il y a quelque chose qui vous fait éclater de rire, vous gardez une joie, une certaine inertie de la joie sur plusieurs minutes, alors que pendant le sommeil, ça va beaucoup plus vite.
Nos émotions vont plus vite, tout va plus vite. Passe de l'un à l'autre, d'un état à l'autre.
Voilà. Et le deuxième groupe de personnes qui m'aident à avancer sont les rêveurs lucides, qui sont ces personnes qui sont en train de rêver et qui savent qu'elles sont en train de rêver au moment où elles rêvent. Ça peut nous arriver à tous de temps en temps, mais il y a des gens extrêmement performants dans ce domaine-là. Et ils peuvent, alors qu'ils sont endormis, envoyer un signal. Alors, on convient du signal avant de dormir. On a longtemps utilisé les mouvements oculaires comme signal, puisque la personne est paralysée. Maintenant, on utilise des mouvements de bouche ou de contraction.
Et elle vous prévient quand elle a une émotion.
Il nous dit là, voilà, là je suis en train d'avoir un truc gai, là je suis en train d'avoir un truc triste. Et donc, on retrouve notre façon de comptabiliser, combien il y en a, et surtout, par rapport à ce à quoi on les a exposés avant de dormir, est-ce que si on les expose à des choses négatives, il va y avoir plus d'émotions négatives directement au moment où se passe le rêve.
Fascinant, Isabelle Arnulf. On va vous faire revenir pour nous parler de tout ça. J'ai envie de vous faire réagir, Anne-Catherine, l'avocat, à tout ça, et justement à ce lien entre les deux, à cette rapidité d'émotion. Qu'est-ce que ça vous inspire à vous, anthropologue, qui avez donc décidé de travailler sur le long terme, sur les rêves de confinement et après, enfin la modification des rêves chez nous les rêveurs?
Alors, en ce qui nous concerne, effectivement, c'est là que je rejoins M. Mazurel, c'est que le rêve en tant qu'objet d'étude a longtemps été cantonné à la psychanalyse ou à la psychologie, alors qu'on peut totalement l'étudier dans le social, puisque si on analyse le rêve comme ce qu'on disait tout à l'heure, une retranscription plus ou moins fragmentée de toutes les choses du quotidien, il est aussi forcément révélateur du monde social qui nous entoure et dans lequel on baigne en permanence, qu'on le veuille ou non.
Et oui, donc effectivement, il y a vraiment de la recherche à faire sur ce lien-là, sur ce que ça dit de nous et ce que ça dit de notre société, de notre monde.
Exactement. Et l'objectif à travers cette collecte, pour nous, ça va être d'essayer de comprendre la manière dont le rêve va interroger, va questionner, va modifier notre perception et notre rapport au monde dans ses multiples dimensions, à travers de grands archétypes donc qu'on va établir au fur et à mesure de l'analyse et des hypothèses de recherche telles que les rapports à l'environnement, à la consommation, à l'autorité, ou tout simplement notre rapport aux autres ou à l'autre avec un grand A.
Eh ben, vous reviendrez nous en parler tous les trois, parce que dès qu'on tire le fil du rêve, on a envie de continuer à rêver. Merci d'avoir partagé quelques-uns de nos rêves collectifs et pourtant si singuliers. Merci Isabelle Arnulf. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage passionnant, paru chez Odile Jacob, Une fenêtre sur les rêves. Merci Hervé Mazurel. On peut donc citer le numéro de la revue Sensibilité sur la société des rêves, co-dirigée avec Bernard Lahire. Et puis votre prochain ouvrage à la découverte, L'inconscient ou l'oubli d'histoire, qui paraîtra cet hiver, Profondeur et métamorphose de la vie affective, et bien sûr votre site à Rêve des confins. Et merci Anne-Catherine Lavocat, vous revenez quand vous voulez, partagez donc l'avancée de vos recherches à découvrir sur le site Rêver sous le Covid-19. Tous les liens sont sur notre page. Merci à Hugo Violas de l'autre côté de la vitre et à Caroline Fillette depuis chez elle. Chers amis auditeurs, à demain.